Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, nous recevrons 4 représentants du collectif Salle de l'Harmonie d'Arras qui défend l'idée que ce lieu doive rester ou le redevienne un lieu culturel. Mais d'ici là, une demi-heure de tumulte musical. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1078. Jean au micro, salut! On démarre avec un extrait de l'album Hot Rats de Frank Zappa avec au chant Captain Beefheart.
Telling all the boys it's KB. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, don't be late. Man in a suit with a bow tie neck. Gonna buy a truck with a day party check. Standing on the porch of the Lido Hotel. Blues is in the lobby, love the way I sell. I dream, I rat, I cat, I
Extrait de l'album de Frank Zappa paru en 1971, Hot Rats, avec au chant Captain Beefheart. Vous avez reconnu aussi le violon de Jean-Luc Ponty. Et on écoute maintenant une nouveauté, extrait du nouvel album d'Elysian Fields, Last Night on Earth.
Trapper and the woods, see her hood flashing red through the pines. Briars in her hair, bloody lip, where I'll sip, lapping red just like wine. Granny's got a plan, take my hand, little girl, darling child. Let me keep you warm, wrap you up from the wet and the wild.
Mama, big eyes you have.
Thank you.
you've changed. I feel strange. Pardon me, I'm a mess. Can you give a hand helping me from the binds of this dress? Look at me, I'm torn, all the rips. Guess I slipped, caught a fright in the war. Dear, are you not feeling good? My, what big eyes you have. My, what big hands you have. My, what hot breath you have. My, what sharp teeth you have.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. Et dans une dizaine de minutes, nous recevrons des représentants du collectif Salle de l'Harmonie d'Arras. Natacha Atlas.
اسمع قلبك بتعرف الحقيقة. اسمع قلبك ويعرف الحقيقة. بيني وبينك غياب طويلة. ليش نتعارك قول هنا كنا سوا. ليش نتعارك قول هنا كنا
Terminer ce mini tumulte musical de 30 minutes avec Oren Bledow et Jennifer Charles des Elysian Fields, mais sous un projet différent qui s'appelle La Mare Unfortuna. Et juste après, nous avons rendez-vous avec les représentants du collectif Salle de l'Harmonie. recevrons donc maintenant quatre représentants du collectif Salle de l'Harmonie, Émilie Bigorne, François Vier, Bernard Sergent et Sylvain Vazet. Ce collectif est né lorsqu'il s'est su que la Salle de l'Harmonie était mise en vente par la ville d'Arras. Ce collectif défend un projet pour que ce lieu reste ou redevienne un lieu culturel à Arras. On va évidemment reprendre tout le dossier en détail. Et pour commencer, le collectif s'est formé avec des associations et des individus. Je vais donc demander à mes invités de dire en fait à quel titre ils ont participé à ce collectif. On commence par exemple par Bernard.
Oui, bonjour à tous. Eh bien moi j'y suis venu, on va dire, à titre individuel au départ, tout en étant membre d'associations, Didouda, collectif également jazz... Voilà.
Et tu t'appelles Bernard Sergent.
Et je m'appelle Bernard Sergent.
Ah bah oui.
Voilà. Oui, c'est ce
Bernard Sergent.
Il m'a présenté, voilà. Donc,
on va demander maintenant à Sylvain Vazet.
Oui, bah, moi je m'occupe d'une asso qui fait dans le spectacle, dans les images, ça s'appelle Le Studio. Et en juin dernier, 2010, j'ai lu un ouvrage qui m'est tombé sous la main et qui m'a fait sursauter.
Voilà, c'est comme ça que tu es venu au collectif, mais on en parlera en détail de cet article qui justement t'a fait sursauter. Émilie Bigorne, Émilie.
Alors, moi j'y suis venue après que le collectif se soit monté en tant que membre de la Jeune Chambre économique ayant justement écrit ce fameux manuscrit auquel fait référence Sylvain.
Dont on va parler, voilà. qui représente un moment clé
voilà,
de
l'histoire.
Donc j'y
suis venue au début en tant qu'individuel et je représente aussi maintenant la Jeune Chambre au sein du collectif.
Et on termine par notre quatrième invité, François Vier.
Bonjour.
Bonjour. Alors toi, tu es venu comment ?
Par l'Académie d'architecture, qui s'est intéressée au dossier, et puis à titre personnel également.
Voilà. Alors on va reprendre le dossier dans son ensemble, en commençant peut-être par un petit historique. Hein, la Salle de l'Harmonie, tout le monde à peu près, je pense maintenant, situe ce lieu dans Arras, où le situait. Peut-être que les gens ont peu à peu oublié, mais je ne pense pas. Mais on va dire ce qu'était ce lieu avant la rénovation du théâtre, parce que en gros... Il y a un point de repère, c'est la rénovation du théâtre, donc avant et après. Alors peut-être c'est François qui va nous rappeler un peu ce qu'était ce lieu culturel.
Alors la Salle de l'Harmonie, c'est l'entrée de la salle du théâtre dans le projet architectural initial. Donc c'est un seul ensemble architectural, le théâtre, la salle des concerts et la Salle de l'Harmonie, plus quelques locaux annexes. Le tout a été construit, enfin, la salle du théâtre, les concerts et son entrée, c'est-à-dire la Salle de l'Harmonie, ont été construits en septembre 1853 par l'architecte Joseph Traxler et est classé à l'inventaire des monuments historiques depuis 2000. Alors, que s'est-il passé lors de la création, lors de la rénovation du théâtre ? Mais il semble qu'on ait un peu oublié cet espace, c'est-à-dire qu'on a conçu un projet qui englobe le théâtre et la salle des concerts. On avait besoin d'une partie de l'emprise de la salle de l'Harmonie, et le reste, c'est-à-dire la partie qui donne sur la rue commerçante, on l'a laissée de côté, on n'en a pas trouvé d'affectation.
Oui, alors avant de parler du moment de la rénovation du théâtre, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on dise à quoi servait cette salle de l'Harmonie avant qu'il y ait rénovation du théâtre. Qu'est-ce qu'elle représentait, par exemple, pour les Arageois ? Sylvain ?
Elle représentait un espace ouvert sur un trottoir inondé de soleil. Et un espace où, quand les portes, effectivement, les grandes portes de bois étaient grandes ouvertes, on rentrait et on ne savait jamais vraiment ce qu'on allait y trouver. Ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, c'était quand même des activités en majorité culturelles qui s'y déroulaient, beaucoup d'expositions, et le reste du bâtiment était occupé, notamment par beaucoup de répétitions et notamment par des cours de danse classique au premier étage.
Donc ça, c'est rue Ernestal à Arras.
C'est rue Ernestal.
Rue Ernestal. Alors effectivement, ouais. On dit salle de l'harmonie, mais en fait, il y a deux niveaux, Bernard. Hein, salle de l'harmonie et...
Donc il y a deux niveaux, c'est-à-dire il y a le bas qui était qui servait principalement donc aux expositions, hein, et donc l'intérêt c'est que c'était ouvert sur la ville et que les je veux dire n'importe qui passait sur le trottoir bah, rentrait, découvrait des choses spontanément, et je crois que ça c'est l'intérêt fondamental de ce lieu, c'est que c'est un lieu qui est ouvert et très centré, hein, c'est très important.
Dit, quand nous avons commencé à nous intéresser à ce lieu, ça a été la réponse immédiate de tout le monde, cultureux, pas cultureux, de tous les bords. Tout le monde avait des souvenirs liés à des choses qu'ils avaient vues comme ça, en passant devant cette salle.
Et en termes d'historique sur la salle de l'harmonie, c'est en fait le plateau de l'étage qui servait pour l'orchestre, à la répétition en fait de l'orchestre quand il y avait des spectacles au théâtre. Et les salles du bas, l'une des salles était consacrée en fait à l'accès à la salle des concerts et l'autre à l'accès au théâtre pour qu'on arrive de plein pied sur la scène.
Voilà, et ça c'était un projet, donc c'est la deuxième phase du projet architectural, puisque François l'a dessiné dans ses grandes lignes. Mais le théâtre du XVIIIe siècle avait donc été complété à l'époque de Napoléon III par cet accès et par ces salles qui paraissaient être tout à fait complémentaires à sa fonction initiale.
Donc la salle de l'harmonie, l'ensemble, salle de l'harmonie, rez-de-chaussée, premier étage, représentait un lieu ouvert sur la ville, en plein centre, lié au théâtre, et en tout cas un lieu culturel, avec un intérêt architectural prononcé.
Avec une volonté, en plus, de manifester une espèce de présence culturelle dans la rue commerçante. C'est comme ça que la mairie, à l'époque de Napoléon III, a voulu cette salle. Et cette façade, justement, très, très monumentale, très parlante.
Alors, on arrive à la rénovation, justement, du théâtre. Théâtre à l'italienne, avec l'ensemble, salle des concerts, etc. Rénovation de ce lieu qui en avait besoin. Et la salle de l'harmonie, François, tu disais, elle a été squeezée.
Oui, on n'a pas trouvé, semble-t-il, à utiliser cet espace en relation avec le reste de l'équipement. Donc, il y a une sorte de délaissé qui est resté inoccupé pendant, je crois, 7 ans, c'est
ouais,
ça
c'est hein toujours comme ça.
Voilà. C'est à peu près 150 mètres carrés qui restent du rez-de-chaussée, puisque la salle de l'harmonie était plus grande hein, autrefois. Donc il en reste quand même 150 mètres carrés au sol, et à l'étage, la salle de l'harmonie proprement dite, qui est identique à ce qu'elle était autrefois, toujours avec son très beau volume.
Et l'ouverture sur la ville reste telle qu'elle. C'est-à-dire, bon, on n'a pas touché, évidemment, au grand portail.
Comme elle est classée, personne n'y a touché.
Voilà. Voilà. Donc, lieu qui est resté comme ça, en fait, une espèce de point noir de la rénovation ou zone obscure de la rénovation du théâtre.
Ben, nous avons naïvement cru, comme toute une partie de la population, qu'un jour, ces portes étaient destinées à se réouvrir. Quand on en discute avec les gens de la mairie actuellement, ils nous disent « mais non, c'était bien prévu dès le départ ». Moi, je me souviens de ce que l'architecte racontait pendant les travaux quand on lui posait la question. Il disait « oui, on verra dans une deuxième phase ». Bon, est-ce qu'il disait ce qu'il pensait, est-ce qu'il était embêté de ne pas pouvoir répondre ? En tout cas, c'est vraiment très récemment, quand on va arriver à l'épisode qu'on doit évoquer maintenant, qu'on a perçu les uns et les autres, que quelque chose s'était passé et qu'on ne l'avait pas vu se passer derrière ces portes qui n'étaient plus destinées à se réouvrir.
Thank you.
magazine Tumult sur Radio PFM 99.9. Nous recevons Émilie Bigorne, François Vier, Bernard Sergent et Sylvain Vazet. Ils représentent le collectif Salle de l'Harmonie d'Arras. Alors on a dans un premier temps rappelé ce qu'était la Salle de l'Harmonie rue Ernestal à Arras avant la rénovation du théâtre. On s'est aperçu que pendant cette rénovation du théâtre, eh bien, il y a eu un côté obscur, on va dire, un trou noir, la rénovation de la salle de l'harmonie. Enfin, la salle de l'harmonie a été amputée et en fait est restée inoccupée pendant plusieurs années, cette année. Et on arrive au point, en fait, où les choses se révèlent. Alors, les choses se sont révélées de manière un petit peu fortuite. Il y a d'abord eu une étude menée par la Jeune Chambre économique dont va nous parler Émilie.
Oui, donc en fait, tout projet Jeune Chambre commence par ce qu'on appelle une phase d'enquête. Alors cette phase d'enquête nous a amené à rencontrer plusieurs acteurs de la vie culturelle d'Arras. On a rencontré notamment la mairie, on a également rencontré le directeur du théâtre. Et disons que comme l'enquête de la Jeune Chambre révélait un manque de lieux pour les artistes amateurs à Arras en termes de locaux de répétition et aussi de diffusion, on s'est donc attaqué à la recherche des lieux qui pourraient répondre à cette problématique. Et donc on est naturellement allé voir le directeur du théâtre, d'abord pour lui parler de la fameuse salle Rêvase, et également pour voir ce qu'il restait des anciennes salles avant la rénovation du théâtre, c'est-à-dire la salle des orphéonistes, le grand foyer qu'il y avait aussi en façade du théâtre, et la salle de l'harmonie. Alors, bon, le grand foyer et la salle des orphéonistes, qui était très, très intéressante pour les associations, ont été complètement squeezées lors de la rénovation pour être privatisées pour le théâtre. Et la salle de l'harmonie, le directeur du théâtre ne voyait déjà pas de quoi on voulait parler. Et puis, je lui ai dit, mais si, vous voyez bien les deux grands porches rue Ernestal. Il me dit, mais nous n'y avons plus accès. Ça n'appartient plus au théâtre. Et je pense qu'elle est à vendre. Et c'est comme ça que la Jeune Chambre économique a découvert, en fait, que la salle était à vendre. Dans notre diagnostic, puisque notre commission s'est transformée en une sorte de diagnostic culturel, mais j'allais dire très light, hein, parce qu'on n'a pas vocation non plus à être des professionnels de la culture, hein, mais on a voulu quand même s'atteler au quartier des arts, et donc on a jugé bon de parler de cette salle de l'harmonie et du potentiel qu'elle représentait, parce que même amputée, puisqu'après on a pu la visiter, je suis même allée en mairie, j'ai rencontré le responsable de la vente des bâtiments municipaux, donc je veux dire, j'étais vraiment bien au courant de cette vente et de toutes ces modalités, et également de la surface qu'il restait, puisque j'avais pu la visiter. Il restait quand même un beau morceau qui pouvait complètement servir justement aux associations. Et donc notre diagnostic s'est porté sur la mise en place d'une petite structure culturelle à cet endroit-là. Donc on l'a développé dans le cadre du livre blanc qui a été remis au public, entre guillemets, c'est-à-dire remis à nos élus et au tissu associatif arageois le 21 juin 2010 lors de la fête de la musique.
Voilà, donc on est à peu près à un an de cette,
l'anniversaire
de cette date.
Exactement.
Donc un livre qui s'intitule Un toit pour les artistes,
exactement,
c'est ça, qui retrace ça. Votre enquête.
Voilà.
Et au passage, est-ce que tu as été surprise du fait que cette salle, d'abord, était inutilisée et inconnue du directeur du théâtre quasiment, et puis le fait qu'elle a été mise en vente.
C'était la stupeur totale, hein. Nous, on avait hâte de sortir le livre blanc, ne serait-ce que pour le faire avant que la salle ne soit vendue, tout en ne sachant pas vraiment s'il y aurait une répercussion, parce que c'était pas gagné du tout que les associations se saisissent de ce sujet. J'avais par le biais de la Jeune Chambre rencontré plusieurs types d'élus de tous bords qui, pour eux, l'affaire était classée, quoi. C'était vendu et c'était même pas, on pouvait pas récupérer le fait qu'elle était déjà mise en vente.
Donc les conversations que tu as eues avec les élus, il apparaît que les élus, eux, savaient que la
totalement, ils s'en cachaient pas, et pour eux, ils avaient l'impression qu'ils ne s'en étaient jamais cachés.
D'accord.
Voilà. Et je pense qu'en effet, ils ne s'en cachaient pas spécifiquement, simplement, ils ne donnaient pas non plus l'info, quoi. Et je pense que pour plusieurs personnes, si on fait un petit tour de table, je crois qu'on en sera tous là. Pour nous, ça faisait tous encore partie du théâtre. C'est-à-dire qu'on n'envisageait même pas que le théâtre était dissocié de cette partie-là du bâtiment.
Alors justement, on va faire le tour des autres invités pour voir un petit peu comment cette information est finalement, s'est finalement répandue et comment les gens ont réagi. Alors qui commence, Bernard ?
Moi, je veux bien en parler. Donc, pour suivre l'historique des choses, c'est Sylvain Vazé qui est présent à nos côtés. Donc, Sylvain, merci. Qui a été le moteur, je veux dire le déclencheur, qui a alerté tout le milieu associatif. Hein, c'est vrai, il a mis une énergie considérable, déjà même avant les vacances. Et malheureusement, bon, les vacances, on sait ce que c'est une période où les gens sont un peu endormis, ou partent, ils sont absents. Et donc, ça n'avait pas trop bougé, honnêtement.
Je ne sais pas s'ils sont absents. D'ailleurs, c'est la raison peut-être pour laquelle, un peu plus d'un an après, en plein été, on maintient un petit peu la discussion là-dessus. C'est clair que moi, mon sein n'a fait qu'un tour quand j'ai eu le livre blanc en main. J'étais un peu incrédule au départ, j'étais obligé de me rendre à l'évidence et d'interpeller Pierre-Paul et Jacques, d'essayer effectivement d'avoir quelques contacts avec les politiques de plusieurs bords d'ailleurs, et de constater la même chose. Apparemment, quelque chose s'était fait que nous n'avions pas saisi, et j'ai passé un peu de temps que mes activités cet été-là me laissaient libre à essayer de brancher déjà
de mobiliser les énergies.
Bah oui.
Alors avant de parler justement de la formation du collectif, parce que là on sent qu'on y vient.
Oui, tout à fait.
Quelle a été, par exemple, toi, Bernard, ta réaction ? Est-ce que tu y as cru à au fait que cette salle allait être mise en vente ?
Moi, j'étais très étonné que nous n'ayons, en tant que citoyen, de n'avoir aucune information. Hein, il n'y avait vraiment aucune, ni dans la presse, donc bon, s'il n'y avait pas eu le livre blanc, effectivement, je pense que de toute façon il y avait un conseil municipal qui était programmé et qui devait acter la vente, quoi. Hein.
Et ça, c'est ce que nous avons perçu en septembre.
Voilà, c'est ce qu'on a perçu en septembre, donc. Donc, oui, on va peut-être laisser...
François Vier, donc...
François est venu un petit peu après...
Est-ce que tu savais déjà, toi ?
Non, moi j'étais surpris comme les autres. Ouais. On a appris ensuite qu'il y avait eu effectivement une négociation, un prix de vente qui avait été fixé avec un marchand de biens, que tout ça a été ficelé, vu en commission et prêt à passer en conseil municipal.
Mais là, par exemple, bon, toi, tu fais partie de l'Académie d'architecture d'Arras. Est-ce que bon, vous avez quand même un œil sur ce que devient le patrimoine architectural à Arras ? Est-ce que vous aviez eu la moindre information sur le devenir de ce lieu ?
Non, on n'avait aucune info. Là.
Et personne dans l'Académie n'était au courant ?
Non, personne.
Au même titre que la SEMCA.
Alors la SEMCA, Bernard, tu expliques ce que c'est ?
Tu traduis. Association de sauvegarde des monuments, c'est long comme sigle. Bon, en fait, ce sont des gens qui, sous une forme associative, tâchent à défendre et à mettre en valeur le patrimoine bâti
de
Arrajois.
Voilà, Arrajois. Voilà. Donc, eux-mêmes n'étaient absolument pas au courant.
François, dans l'Académie d'architecture, la réaction des gens quand ils ont appris que ce lieu était mis en vente ?
Je dirais que l'Académie, elle a réagi un petit peu après. Elle s'est jointe au mouvement. On s'est dit aussi qu'il y avait des compétences techniques dans l'Académie qui pouvaient être utiles pour mettre au point les propositions. Donc, nous nous sommes raccrochés, je dirais, au wagon un peu après coup.
D'accord. Donc, le sentiment général, c'est la stupeur.
Ouais, surprise.
Un mélange d'interrogation, d'incrédulité.
Ouais.
Et puis un sentiment un petit peu de scandale, non ? Ça apparaît un peu scandaleux dans le milieu associatif ?
Comment, toi, Sylvain,
que les choses se présentent de cette manière-là, c'est-à-dire que apparemment quelque chose était décidé que la population ne connaissait pas et qui donnait l'impression d'avoir été un tout petit peu, je veux dire, prémédité. Effectivement, ça nous a fait un petit peu réagir, d'autant plus que dans les premières réactions que nous avons manifestées, dans les premières tentatives de communication que nous avons eues avec la ville, la position qui s'est fait entendre au départ était
ferme.
Elle était pour le moins ferme. C'était tout sauf du dialogue et c'était un petit peu des arguments à l'emporte-pièce du type c'est tout pourri, il n'y a rien à en faire, c'est pour ça qu'on le vend.
Alors justement, le collectif se forme. Oui, alors donc on a notre première, on a mobilisé une trentaine d'associations. Hein. Donc notre première réunion, c'était le 11 septembre à l'Office culturel.
Voilà. Oui, ça ne s'invente pas.
Ouais, oui, c'est vrai. Hein, donc sachant qu'il y avait une délibération municipale qui devait entériner la vente de la salle.
Hein. Et qui était prévu pour quelques jours après. On avait précipité un petit peu la réunion.
Le 27 septembre ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas noté.
D'accord.
Je ne l'ai pas en tête exactement.
Oui, peut-être une quinzaine de jours après.
Voilà. Donc, suite à cette réunion, immédiatement, donc le collectif a écrit un courrier.
Cette réunion forme le collectif. Les 30 associations voilà. Sont parties prenantes.
Voilà. Donc, on va dire, on a désigné des gens, enfin, plutôt des volontaires. Hein. Au départ, bon, ça s'est mis en place tout doucement. Des gens qui voulaient bien travailler sur le sujet, mener une réflexion, quoi. Hein, donc ça s'est fait tout doucement. On était quelques-uns à commencer à réfléchir aux choses.
Tout doucement, avec le sentiment de l'urgence, parce que dès ce moment-là,
l'urgence, quoi. Ouais.
Nous savions que nous devions dire quelque chose, si nous souhaitions le dire, et qu'il fallait faire valoir au moins nos arguments et nos questions avant une date limite. C'est d'ailleurs pour ça que dès cette première réunion, on avait un tout petit peu fait fuiter l'information de manière à ce qu'on ait déjà des éléments de réponse. La presse avait joué son rôle dans l'affaire. Et les premières réponses de la mairie, on les a eues pratiquement en temps réel.
Quasiment, parce que le 16 septembre, donc c'était le lendemain de l'envoi de la lettre, la mairie a lancé des invitations, alors je précise bien, à titre individuel, hein, donc afin de... Il y a quelques personnes qui ont été invitées, des gens de l'Office culturel. Bon, je ne vais pas citer des noms, c'est pas... Bon, il y a notamment... Enfin, aussi Bernard Sénéca, il y avait... Je ne sais plus qui est-ce qu'il y avait.
Oui.
Donc moi, à titre personnel, j'avais eu une invitation également pour me rendre à cette réunion. Alors, personnellement, j'ai réagi de la façon suivante en disant, non, c'est le collectif qui a demandé à être reçu. Donc, les représentants du collectif devaient être reçus, c'était notre demande. Donc, à titre individuel, je n'ai pas voulu y aller, quoi.
D'accord.
En termes de solidarité ouais. Par rapport au collectif, quoi.
Pour que les choses soient bien claires, le collectif s'est formé d'abord sur le refus de la vente
bien
de
sûr,
la salle de l'Harmonie.
Tout à fait.
Au privé.
Voilà.
C'était unanime parce que
oui.
30 associations,
oui.
On se dit, ça doit aller un petit peu dans tous les sens.
Tout à fait. J'étais très surpris de voir la mobilisation, effectivement, des gens, parce que quand même, 30 associations, d'autant plus que je pense qu'il y avait longtemps que ça n'avait pas été fait. Hein. Qu'autant de gens au niveau des associations s'étaient mis autour d'une table pour parler. Hein. Hein, donc, moi, je crois que c'est...
Non, c'est... Essentiellement associations culturelles. Hein.
Oui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire musique, théâtre, mais il y avait des représentants du... peinture également,
ah oui,
danse,
et sans difficulté. Ouais. Il faut dire qu'on était avant le week-end du patrimoine. Et si, quand même, ça a son importance, puisque on a été un certain nombre à s'entendre dire des choses du type, par exemple, je ne sais plus quel est le quotidien ou l'hebdomadaire qui a sorti Arras Brat, ses bijoux de famille, qui était quand même un joli titre.
Alors Émilie, au départ, il y a une enquête de la Jeune Chambre économique qui tombe sur une information. Cette information est divulguée, ça réagit.
Cette information était faite pour être divulguée, c'est-à-dire que le livre blanc était fait pour être diffusé. Et c'était le but du livre blanc, c'était qu'il serve de boîte à outils, que chacun y pioche des idées pour pouvoir travailler sur un vrai projet culturel à Arras.
Et dans votre équipe, est-ce que vous avez été un peu surpris?
Ça
réagisse autant.
Ah bah complètement, d'autant que si vous voulez, on ne s'est jamais caché du contenu du livre blanc avec la mairie, auprès de la mairie, puisque la mairie était partenaire en fait du livre blanc. Donc je veux dire, on était complètement dans le dialogue avec la mairie. Donc mais je dirais que à la conférence de presse où a été présenté l'outil, le livre blanc en question, était présent également des journalistes. Donc eux-mêmes, je pense, n'ont eu aucune difficulté à en discuter et à en parler dans leurs journaux, puisque visiblement, l'info, c'est ce qui a le plus surpris, finalement, dans le contenu du livre blanc, c'était la vente de la salle de l'harmonie, quoi. Donc ça a fait tout de suite écho. Nous, la Jeune Chambre, on ne s'est pas greffé tout de suite au collectif, on a attendu qu'il se constitue pour déjà que le projet mûrisse auprès des autres associations culturelles. Et donc à ce niveau-là, on a donc laissé la première réunion se faire. Et je suis donc allée à titre individuel aux réunions suivantes de manière à pouvoir retranscrire auprès de mes camarades de la Jeune Chambre ce qu'était le collectif et puis valider aussi leur projet, puisque on pouvait très bien tomber sur une bande d'illuminés qui allait rêver d'un endroit absolument extraordinaire à Arras. Or, on sait bien qu'il y a des composantes financières dans l'histoire et que c'est pas aussi simple. Et j'ai eu l'agréable surprise quand même de découvrir un lieu. Un collectif constitué d'associations d'univers très diverses, avec chacun ayant des desiderata très différents, parce que je veux dire, il y a quand même beaucoup d'associations qui sont en manque de lieux de répétition et de manque de lieux de diffusion. Or, cette salle de l'harmonie ne peut pas répondre forcément à ses besoins. Or, ils se sont quand même tous réunis entre eux pour défendre un projet collectif sur un lieu qui, à la limite, ne leur servirait peut-être même pas.
Voilà. Donc, sans essayer de se caser.
C'est absolument... je veux dire, c'est assez rare, quoi, dans la vie culturelle d'une ville, qu'un tel collectif se constitue. Et c'est précieux, je dirais. Donc, forcément, on ne pouvait qu'adhérer à ce collectif.
Et puis, vas-y, Bernard.
Ce que je voulais ajouter, c'est que on est parti vraiment avec un vrai esprit de concertation. C'est-à-dire que bon, c'est pas une opposition systématique. On voulait vraiment entamer une vraie réflexion et vraiment. Et d'ailleurs, je pense que ça fait un an. Je veux dire, on peut pas nous reprocher ça, quoi. Je veux dire, on a vraiment on essaye vraiment d'avoir une vraie concertation, quoi. Donc peut-être qu'on fait peur, vu de l'extérieur, mais non, c'est.
Alors en fait, ce qui apparaît un peu, c'est que la ville a été surprise.
Par la mobilisation.
Elle ne s'attendait pas à ce que les choses se passent de cette manière-là. Voilà. Et donc, mais comment elle réagit donc cette ville, c'est elle, au lieu de se concerter avec le collectif, en fait, elle le contourne en invitant quelques personnes.
Bah, voilà, disons qu'elle, Sylvain, elle le contourne. À la fois pas
dans
vraiment
un premier
parce
temps.
Que
dans un premier
les
temps.
Gens qu'elle invite en fait sont tous branchés sur l'action du collectif, ils la connaissent, ils la défendent, ils la respectent et individuellement quand le maire s'ouvre à eux, leur pose des questions, essaye de comprendre ce qui se passe, eh ben ils prennent une grande respiration. Et puis, ils lui disent « Non, c'est pas des illuminés. On est de tous les bords à Arras solidaires sur cette affaire. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut agir. » Et là, je dois rendre quand même un petit hommage au passage à Bernard Seneca, le président de l'Office culturel, qui est celui qui a réussi à faire entendre quelques arguments de bon sens qui représentaient aussi tout à fait complètement notre façon de penser.
Tout à fait. Alors donc, suite à cette rencontre, Monsieur le maire a décidé donc de suspendre la délibération en conseil municipal et donc d'entamer une réflexion. Alors suite à cette réunion, donc il y a des visites de la salle de l'harmonie qui ont été organisées.
On va en parler après une petite pause musicale.
Ouais, d'accord.
Mais bon, donc l'optique de la ville, tout simplement, juste avant cette pause musicale, ouais, c'est de suspendre, c'est-à-dire la vente n'est pas...
Non.
Le point de vue, la vente de la salle de l'harmonie au privé n'est pas complètement abandonnée.
Tout à fait.
D'une certaine manière, il semble que la ville pensait peut-être qu'à travers les visites dont tu voulais parler,
voilà,
Bernard, les gens se rendent compte que ce lieu-là était inutilisable.
Ben voilà, parce c'était que bon, ce qu'on nous disait, parce que bon, personnellement, c'était mon cas, je veux dire, je n'avais jamais revu ce lieu, donc effectivement, on nous disait, mais vous allez voir ce lieu, il est dans un état déplorable, etc. Voilà.
Donc des visites sont organisées de la salle de l'harmonie.
Oui, au mois d'octobre.
Au mois d'octobre, on en parle juste après.
D'accord.
La musique. Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous sommes en compagnie de quatre représentants du collectif Salle de l'Harmonie, Émilie Bigorne, François Vier, Bernard Sergent, Sylvain Vazet. Alors on a narré comment le projet de vente de la Salle de l'Harmonie rue Ernestal à Arras, ce projet a été suspendu par la ville. Et nous sommes en octobre 2010, sont organisées des visites de ce lieu. Alors tous les quatre, vous avez visité la salle de l'harmonie, ce qu'elle était devenue.
Bon,
normalement, on devait s'attendre à voir quelque chose dans un état déplorable. C'était peut-être le cas.
C'est ce qu'avait annoncé la Voix du Nord, notamment. Je me souviens que Nicolas André avait fait un petit papier suite à une petite visite privée qui lui avait été offerte par Philippe Rapneau.
Avec une très belle photo devant un seul trou qu'il y avait en plafond.
Voilà, et il ne reste plus rien de cette magnifique salle. Enfin, la teneur, c'est... Vous allez voir, c'est une ruine. Mmh. Et effectivement, vous savez que... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, moi, je suis petit-fils d'architecte, donc j'ai personnellement pour habitude d'essayer de ne pas me laisser impressionner par un bout de tapisserie qui pend sur un mur ou par quelques crottes de pigeons. En fait, ce sont les arguments qui devaient nous assommer complètement. Mmh.
Voilà, Emily Bigorn, oui, ta visite.
Moi, je l'avais visité juste avant, de toute façon, pour la constitution du Livre Blanc. Donc, je savais très bien ce qu'on allait y trouver. Moi, en tant qu'architecte d'intérieur, puisque c'est ma profession, j'étais absolument pas effrayée de ce qu'il en restait. Alors, évidemment, il y a en effet bien un trou en plafond, mais c'est normal, puisqu'ils avaient fait un sondage dans le plafond pour vérifier l'état de la charpente au-dessus de la salle. Parce que la charpente communiquant avec le reste du théâtre, il fallait assurer le coupe-feu, en fait, c'est très technique, mais le coupe-feu du reste du bâtiment. Donc forcément, il fallait l'isoler. Donc il y a en effet un trou dans le plafond de la salle de l'harmonie de l'étage pour vérifier l'état de la charpente. Après, oui, il y a eu des dégradations, mais enfin, forcément, quand on laisse les fenêtres ouvertes pendant un chantier, les pigeons rentrent et ils défèquent, n'est-ce pas ? Et donc, en effet, le sol était un peu jonché de merde de pigeons. Mais enfin, je veux dire, rien de très surprenant. J'ai travaillé au monument historique. Je peux vous assurer qu'il y a des bâtiments en bien piètre état que celui-là, quoi.
Bernard Sergent ?
C'est sûr que si on avait balayé peut-être un petit peu les lieux et fait un peu... Enfin, les poussières... Enfin, c'est un grand mot, peut-être les poussières. On aurait... Par rapport, c'est vrai qu'on a une sensation effectivement de lieu qui est
à l'abandon,
qui est un peu à l'abandon, quoi, c'est sûr. Mais bon, en prenant du recul, on se rend compte, notamment la salle du haut aussi, qui est très très belle, quoi, je veux dire. Hein,
qui a conservé son volume complet.
Bon, alors effectivement, en bas, on est. La première impression, on était un peu choqué parce que bon, c'est muré, hein, parce qu'on a perdu.
Puis c'est muré en parpaing surtout.
En parpaing, donc, donc c'est pas très beau, quoi. Mais après, bon, il faut rêver, quoi. Il faut réfléchir un petit peu, se dire voilà, on restaure, on met.
Il y a un potentiel énorme.
Et puis toujours, ce lieu qui est ouvert sur la ville, stratégiquement bien placé, c'est super important. Ça.
François Vier, ta visite.
C'était pour constater effectivement l'état des lieux. Donc il faut rappeler brièvement peut-être, lorsqu'on est face au bâtiment, donc il y a ces deux grandes portes. Du côté gauche, c'était l'accès à la salle qui servait de salle d'exposition, donc largement amputée, mais enfin ça reste un volume utile. Du côté droit, séparé de la première partie, il y a une salle un petit peu plus petite qui est séparée par quelques piliers assez massifs. Et puis, sur la droite, un escalier assez monumental.
Un très bel escalier.
Qui donne à la salle du haut, dont on a dit qu'elle avait un beau volume, avec un côté de la salle qui est en arrondi et un volume à préserver.
Le sentiment général du collectif, c'est que le lieu est exploitable.
Bien sûr.
Vos réactions à tous les quatre suite aux visites. Vos réactions sont largement partagées par l'ensemble des associations qui forment le collectif.
C'est le retour que nous avons, parce que voilà. Autour de nous, il y a plein de gens qui connaissent moins bien les lieux que nous. Bon, par exemple, Émilie et moi, on l'a beaucoup fréquenté quand on était gosses. Elle était petit rat.
Voilà.
Hein,
voilà.
Et moi, j'ai
très mauvais petit rat,
répété dans le coin. Donc ces lieux, je les connaissais par cœur. Quand on écoute effectivement les gens qui ont répondu à l'invitation de la ville et qui laissent revenir leur souvenir du lieu, on s'aperçoit de toute façon que ce qu'ils voient de l'état actuel ne les empêche pas de se dire qu'on a en face de nous, entre nos mains, quelque chose qui vaut la peine d'être regardé, d'être conservé et d'être restauré.
François, oui.
Alors c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu insisté auprès de la mairie en leur disant le collectif peut se faire l'interprète des associations culturelles pour faire une proposition. Voilà. Ce qui a été accepté à demi-mot en nous donnant une échéance approximative. Déposez vos propositions.
En début d'année. Quoi,
en c'était. Début d'année.
Voilà. Alors, petite chose importante quand même à rappeler, il y a eu quand même des tables rondes qui ont été organisées avec Monsieur Mullart, qui est responsable de la culture. Donc il y a eu trois réunions, hein. Une plus spécifique avec les gens du collectif et puis également les associations qui ne pouvaient pas venir ce jour-là, quoi. Donc
il y a eu une volonté de concertation, voilà. Surtout venant de notre côté, et la mairie y a répondu favorablement.
Voilà, hein, enfin. Donc
en tout cas le collectif ne se cantonne pas à refusé la vente au privé de la salle de l'harmonie, mais après ces visites, le collectif dit
c'est un lieu, force de proposition.
C'est un lieu où il peut y avoir un projet culturel original.
Voilà, tout à
fait. Alors, quel est ce projet que vous avez un petit peu élaboré ?
Alors, je crois que le collectif a été tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'avant de faire un projet qui est celui qu'on va détailler, il y a eu une enquête qui a été faite auprès de toutes les associations pour voir quels étaient les besoins individuels des gens. Bon. C'est dans un second temps que les associations ont convenu qu'il valait mieux faire un projet collectif au bénéfice de l'ensemble du milieu culturel plutôt que d'utiliser les salles pour les besoins de tel et tel.
Voilà. Plutôt que d'essayer d'attribuer.
On avait, à la suite de ce recensement des besoins, on avait fait le constat que de toute façon, on pouvait parfaitement mettre en place un planning d'utilisation aussi bien des salles du haut que des salles du bas, rien qu'avec les différentes demandes qui nous étaient faites.
Largement.
Et c'est ensuite que la réflexion a évolué, notamment à travers les contacts avec l'office culturel et avec le théâtre,
oui,
vers ce que nous avons appelé le point d'accueil culture.
Alors, est-ce que vous pouvez détailler un peu ce point d'accueil culture, Sylvain Vazier ?
Alors, au départ, il s'agit de rester dans la droite ligne de ce que nous avions ressenti comme le fonctionnement naturel de ce lieu, c'est-à-dire cet aspect de vitrine largement ouverte en plein milieu de l'artère commerciale et lieu vraiment parfaitement situé en bordure du quartier des Arts pour être une espèce de relais de toute une série d'initiatives les plus diverses possibles. C'est-à-dire, nous avons tenu compte effectivement dans notre proposition que dans la mémoire des Arageois, c'est la diversité, le fait qu'on ne savait jamais ce qu'on allait voir à cet endroit-là qui créait l'intérêt du badaud qu'on a tous été les uns et les autres et qu'on souhaite justement redevenir par rapport à cette salle. Et donc, par rapport à ça, il y avait une espèce de fonction d'interface qu'il était plus ou moins facile d'essayer de dire. Il s'agissait de montrer, il s'agissait de recevoir aussi les gens, d'être capable de leur donner une information complémentaire et de répondre à leurs demandes, par exemple, pour la réservation qui pouvait avoir trait à toute activité. Il faut savoir que pour l'instant, quand on essaye, sur l'Arageois en général, de trouver une place pour une manifestation, pour un spectacle quelconque, ben c'est le parcours du combattant.
Voilà.
On ne sait pas trop où aller. Et c'est une aussi des réflexions qui nous ont fait dire que ce lieu qui pouvait s'afficher de nouveau comme une vitrine culturelle au sens très large, et pas seulement au bénéfice de quelques-uns, pouvait être en même temps un lieu où pouvaient converger les offres et les demandes.
Ce serait un lieu relais, en fait, voilà, du quartier des Arts. C'est-à-dire qu'on a quand même dans ce quartier des Arts, ce fameux quartier des Arts, ce beau concept qu'était le quartier des Arts, on a l'hôtel de Guine, le casino, le théâtre, l'office culturel. On va être amené aussi, dans les années futures, à parler du palais Saint-Va, de la citadelle, qui c'est plus loin, mais je veux dire, on a quand même pas mal d'équipements, rien qu'au niveau d'Arras, où il faut bien relayer l'info sur ce qui s'y passe et ce qui va s'y passer. Donc c'était un lieu extraordinaire en plein cœur de la zone de chalandise d'Arras, ouvert et disponible pour tout le monde, quoi. Donc.
Oui, l'idée, c'est enfin, une des idées, hein, bien sûr, c'est d'avoir un lieu d'accueil, hein, pour toutes les associations, hein, pour passer toutes les informations des associations, de leurs manifestations, et aussi d'avoir une billetterie centralisée. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, le théâtre fait sa propre billetterie, mais par exemple, quand il y a une association organise, par exemple, au casino un spectacle,
est-ce qu'il faut aller à l'office culturel ? Est-ce qu'il faut aller à l'office de tourisme ?
Il y a vraiment un réel problème. Hein. On peut demander aux gens qui, quand ils savent pas où s'adresser, donc un lieu centralisé a vraiment un intérêt, quoi, par rapport en termes de billetterie Et ça crée une synergie en plus, hein. C'est-à-dire qu'en allant prendre un billet pour tel spectacle, on va découvrir d'autres informations sur d'autres spectacles.
On avait aussi pensé là-dessus à ce qui se pratique dans les capitales comme à Paris ou à Londres, où il y a ces boutiques tickets, où tout le monde sait qu'on va trouver tous les tickets. Il y a des commerces qui font ça aussi, on est bien d'accord. En l'occurrence, il s'agissait de pouvoir ouvrir au plus grand nombre.
Alors évidemment, une question, c'est est-ce que dans ce lieu tel qu'il était, est-ce qu'il était possible techniquement d'installer un tel projet culturel, François ?
Alors, on a conçu notre concept. Émilie s'est chargée de le mettre en forme, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de plans qui a été établi. Avant transformation, après transformation, tu diras concrètement quels sont les travaux prévus. Mm-hmm. Je crois qu'il faut d'ailleurs éviter de parler au passé de cette affaire, parce que tout n'est pas clos, hein, et nous espérons qu'il ressurgira à court terme ou à moyen terme. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a eu un chiffrage qui a été fait, et un chiffrage par des professionnels, des architectes qui sont en exercice en ce moment, qui manipulent des prix toute la journée. Et donc, c'est un chiffrage sérieux et extrêmement fiable. Mmh. Je le dis parce qu'il y a eu des querelles de chiffres avec les services municipaux à propos de ces chiffres.
Alors, quelques précisions.
Ils ont été lus d'une manière particulière.
Quelques précisions, Émilie, justement.
Disons que on va parler un peu en gros mots, hein, mais il s'agit d'un lieu qui va recevoir du public. Hein, donc forcément, on ne peut pas les recevoir dans n'importe quelles conditions. Le lieu actuel ne peut recevoir que 19 personnes sur l'ensemble du lieu. Donc c'est évidemment pas possible. Donc pour exploiter l'étage, d'abord il faut le rendre accessible à tous, c'est-à-dire y compris aux personnes à mobilité réduite, donc avec la présence d'un ascenseur, et pouvoir le dégager aussi en cas d'incendie, donc créer un deuxième escalier, un dégagement accessoire en fait, qui n'a pas besoin d'être énorme, mais qui forcément va prendre un peu sur l'emprise du reste du bâtiment, quoi, hein, au niveau des cellules du bas. Donc ça suppose d'avoir deux entrées, deux sorties, deux escaliers et un ascenseur. Mais c'est totalement possible dans la configuration du lieu actuel, sans de gros travaux, quoi.
Alors, cette caractéristique-là est importante parce que ça donne la flexibilité maximum à ce lieu. En créant ces différents accès à l'étage, on peut en faire ce que l'on veut. On peut mettre, je dirais, 100 personnes à l'étage pour une manifestation si c'est indispensable.
C'est un magnifique
etc.
outil pour la mairie, quoi.
Un autre point à souligner, c'est la façon dont on ouvre sur la rue. Actuellement, on voit ces deux grandes portes blanches opaques. Il faut imaginer que lorsqu'elles seront ouvertes, si notre projet se réalise, nous avons immédiatement derrière une paroi vitrée, c'est-à-dire qu'on est de plein pied avec l'intérieur. Il y a une transparence qui est réalisée avec la rue, sachant que les monuments historiques nous imposent de conserver les portes. Donc les portes sont fermées aux heures de fermeture, mais sont ouvertes aux heures d'ouverture, bien entendu, avec cette transparence, l'affichage des manifestations, la vision directe par les passants des manifestations qui se présentent à l'intérieur, etc.
On fait une petite pause musicale, très, très brève, et ensuite on parle de comment a été reçu ce projet par la ville. Tumulte sur Radio PFM 99.9. Nous sommes avec Émilie Bigorne, François Vier, Bernard Sergent, Sylvain Vazet du collectif Salle de l'Harmonie. Alors on a détaillé le projet du collectif pour le lieu intitulé Salle de l'Harmonie, rue Ernestal à Arras. Alors maintenant, la ville, on peut dire, a enterré son projet de vente au privé. Comment la ville a reçu votre projet et en fait en concurrence de quoi elle l'a placé. Bernard ?
Oui. Donc nous avons eu une réunion en mairie. En fait, on a déposé notre projet hein, en mairie, donc c'était à la mi-janvier, ouais, fin janvier. Et donc suite à ça, bien sûr, on avait reçu un courrier nous disant, bah, écoutez, votre projet va passer devant un jury.
Alors, oui.
Voilà, un jury. Ça, c'était nouveau.
Oui, c'était encore une petite surprise.
Une petite surprise. Donc, en fait, on a appris qu'il y avait deux projets. Hein, donc, notre projet et celui des Compagnons du Tour de France. Voilà. Donc, bon, ça, on va passer un petit peu là-dessus. Donc, après, une réunion a été faite à l'Office culturel avec le maire. Donc, qui nous a dit, bah, écoutez, votre projet n'est pas retenu. Voilà, c'est le projet des Compagnons qui est retenu.
Ouais. Alors, peut-être pour être parfaitement transparent, quel est le projet des Compagnons, en gros, hein? Qu'est-ce qui peut en dire un mot?
Moi, je voudrais corriger ce que vient de dire Bernard, parce que ce n'est pas la manière dont les choses nous ont été présentées. Et je crois qu'il peut y avoir une manière déguisée d'avancer des arguments, mais personnellement, je suis assez attentif à la forme. Et ce que j'ai ressenti, moi, c'est effectivement une intention de mise en concurrence d'éléments. On nous a dit, au stade actuel de la réflexion, nous n'avons pas retenu votre projet en l'état, mais nous avons souhaité avancer avec les Compagnons en leur demandant certains aménagements. Bon.
Très limités.
Très limités.
Voilà.
À la suite de quoi, d'ailleurs, nous avons demandé à pouvoir rencontrer les Compagnons pour nous faire une idée précise de ce qu'il en était.
Alors peut-être là justement expliquer un peu quelle est l'idée des Compagnons pour ce lieu.
Alors, les Compagnons ont l'intention de faire de ce lieu un site particulier, orienté plus sur les professionnels que sur les apprentis, en quelque sorte la formation haut de gamme destinée à pôle d'excellence. Bon. Ce qui nous paraît un petit peu surprenant, parce que ce pôle d'excellence utilise l'étage pour faire une salle de réunion de 12 personnes maximum. Et en bas, bah, ma foi, ce sont des espaces qui ne sont pas très spacieux, et on s'interroge sur la façon d'organiser de l'enseignement dans ce lieu. Alors, ce qui nous choque le plus dans cette affaire, c'est deux choses. C'est que on propose de consacrer ce lieu à, non pas la culture, mais à de la formation. Bon, formation, c'est un intérêt public, c'est une mission de service public assurée par les Compagnons, tout à fait respectable évidemment, mais on se dit, sur une artère commerçante, dans un lieu avec cette visibilité-là, dans un lieu qui a été conçu comme un espace culturel, pourquoi faire de la formation ? Et surtout, le deuxième aspect qui est choquant, c'est que les Compagnons disent « on va faire des travaux, mais en contrepartie, il nous faut un bail de 30 ans ». Ça veut dire
donc
quoi ? Ça veut dire qu'on signerait, on bloquerait la destination des lieux sur de la formation professionnelle pendant 30 ans. On retirerait le lieu de sa fonction culturelle, qui était sa fonction de toujours, pendant 30 ans, c'est l'air en fait pour toujours.
Bon, donc on la retire du public, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans la sphère. On n'est plus dans la sphère publique.
Alors, ce n'est plus la première privatisation qui était, elle, une catastrophe. L'en remettre à un privé pour en faire des logements et des boutiques, c'était la catastrophe. Donc, c'est moins pire, si j'ose l'expression, mais c'est quand même une forme de privatisation. C'est-à-dire, c'est un démembrement de propriété, on donne en jouissance un espace pendant 30 ans à un organisme de droit privé, même s'il assure une fonction de service public.
On a quand même hérité d'un lieu de culture, hein, ça a traversé les siècles en tant que lieu de culture, et qui sommes-nous pour subitement ne pas transmettre ce patrimoine culturel à nos enfants? Voilà, c'est un peu ça, si on doit regarder dans les grandes lignes, on ne peut pas privatiser un lieu et de quel droit, quoi, hein, et c'est figé en plus pour 30 ans, des possibilités pour le théâtre de se réouvrir aussi sur la ville. Si ce lieu a existé et s'est construit, c'est qu'il y avait une raison technique aussi derrière. Donc après, même s'il y a eu des choix qui ont été faits au moment de la reconstruction du théâtre, rien ne nous dit que dans 20 ans, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule et réouvrir sur cette artère.
Oui,
donc aujourd'hui, la position du collectif, c'est de dire à la mairie, ne signez pas ce bail de 30 ans.
Ah, il faut à tout prix éviter de signer.
Voilà.
Préservez l'avenir. Faites les travaux selon nos propositions. Ce ne sont pas des chiffres ahurissants, ce ne sont pas des chiffres énormes. Ça donne le maximum de polyvalence au lieu. Ça donne le maximum de possibilités d'évolution de ce lieu. Une fois que les travaux sont faits, la ville en garde la pleine propriété, se concerte à nouveau avec les milieux culturels et en fait soit un projet très élaboré,
ambitieux,
notre projet de point d'accueil culture, soit quelque chose de plus modeste, qui revient en fait à lui donner sa destination d'avant les travaux du théâtre, c'est-à-dire de salle de répétition, de lieu d'exposition, de lieu consacré à divers usages pour les...
ce qui pose problème à la mairie, visiblement, c'est le problème du budget de fonctionnement. Donc c'est pas tant le budget travaux, c'est plus le budget de fonctionnement.
Je veux dire que depuis le départ, en fait, c'est ce qui nous est invoqué sans cesse, quoi. Hein, à la rigueur... Le contenu, on nous dit c'est bien tout ça, mais bon, mais ça va coûter de l'argent.
Voilà,
après, je crois que c'est des choix politiques.
Et puis c'est on nous dit aussi il y a un manque de compétences culture en communauté urbaine, donc il ne peut pas y avoir de fonds dégagés en communauté urbaine pour la culture. Donc la mairie ne peut pas assumer à elle seule les frais de fonctionnement d'un tel lieu.
Voilà. Donc ce que le collectif dit, c'est que votre projet, le projet du collectif, finalement peut être parfaitement mis en place de manière raisonnable.
Voilà, hein, qui peut être gradué en
procédant par étapes, n'occasionne pas de dépenses excessives,
non.
Et en tout cas qui n'excède pas celles qui seraient occasionnées par le projet des compagnies.
Voilà, parce Absolument. Que en fait l'investissement de la ville, je pense, d'après ce qui nous a été dit, le budget que va dépenser la ville dans le projet des compagnons
est sensiblement le même, voire légèrement au-dessus, d'après les renseignements que le maire nous a donnés, en tout cas.
Voilà, donc c'est le point où on en est. Le collectif demande en fait à la ville de ne pas signer ce bail aux compagnons et de mettre en débat la mise en place de votre projet.
Avons donc formalisé cette demande par un courrier début juin, et donc pour l'instant on n'a pas de nouvelles, quoi.
Mais bon, c'est l'été. Hein.
C'est l'été, mais bon...
Nous restons vigilants.
Voilà, et on prévoit de se revoir tous à la rentrée. Hein, et puis peut-être... Et puis on va également informer, peut-être... on va ouvrir l'information au niveau du public également.
Hein, parce que c'est une première étape ce soir.
Voilà.
Disons que, en résumé...
Je trouve que c'est important de mobiliser François.
En résumé, nous avions... une proposition très élaborée, mais qui nécessitait deux postes à temps plein pour fonctionner. La ville nous a dit, on n'a pas de postes à mettre sur la culture à nouveau. Donc on lui fait une contre-proposition, on lui dit, vous faites quand même les travaux, vous gardez la pleine propriété, et si vous ne voulez pas tout de suite mettre des postes, eh bien ne mettez pas de postes, simplement assurez-vous via l'office culturel ou n'importe qui qu'il y a quelqu'un pour remettre les clés aux associations qui seront utilisatrices. Et vous limiterez les coûts de fonctionnement à de l'entretien courant, au chauffage, à l'électricité, et voilà. Et vous éviterez les coûts de fonctionnement importants qui, pour vous, sont des obstacles majeurs.
Voilà, on va terminer sur un dernier point. J'espère que le collectif, à travers cette émission, sera entendu.
Voilà, justement, mais, oui. Je voulais dire.
Vas-y, Bernard.
Dire ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent s'associer à notre démarche, à notre réflexion, parce que bon, je pense que ça... Lors de la dernière réunion du collectif, les associations ont manifesté la demande de mener une réflexion plus importante sur une réflexion sur la culture,
Ben, c'est-à-dire, c'est venu au fur et à mesure du débat, parce que quand on essaye de définir un programme pour un lieu bien, bien particulier et qu'on ne veut pas faire du n'importe quoi, on essaye de le faire en phase avec toute une série d'autres données. Et alors forcément, on pense à l'usage de tel ou tel outil. Et bon, on est bien obligé, et je ne m'en plains pas vraiment aujourd'hui, de considérer que notre réflexion qui maintenant se joue depuis un an, elle me donne l'impression d'avoir un tout petit peu réveillé le marais arrageois.
Oui, moi... on est obligé de se quitter là, Bernard. Peut-être juste, est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone, une adresse mail pour si des gens sont intéressés pour contacter le collectif.
Je vais donner mon numéro de téléphone.
Allez
Bernard. Bernard Sergent,
alors, 06 82 37 99 73.
Voilà, on le dit encore une fois.
Alors 06 82 37 99 73.
Voilà, on était en compagnie de Sylvain Vazet, Émilie Bigorne, Bernard Sergent et François Vier, pardon, du collectif Salle de l'Harmonie à Arras. Merci.
Merci,
merci, bonne soirée.
Jean, de nous avoir accueillis.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. La semaine prochaine, Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h. Et sur le net, radiopfm.com. Salut !